hier au soir. Un peu le climat de ces quelques jours de réflexion philosophique. Cet après-midi, pour les carrefours, on sera là pour distinguer, je le dis tout de suite, trois niveaux. Pas mal de philosophie, ceux qui n'en ont pas fait du tout, et puis ceux qui sont entre deux. Et il y aura six frères qui seront là pour sans doute diviser ces trois groupes en deux, parce que ce n'est intéressant les carrefours que quand on n'est pas trop nombreux pour permettre d'exprimer les difficultés qu'on peut avoir dans le cours qui est donné. Vous voyez, je vous parlerai avec beaucoup de simplicité au plan philosophique. Il peut y avoir des questions. C'est difficile d'arrêter au milieu d'un cours, mais notez-vous tout de suite des questions. C'est comme ça qu'on progresse. Notez les questions philosophiques. Notez les questions de langage, de mots. Et vous aurez là, dans les carrefours, un frère qui pourra répondre à vos questions. Et si il y a des questions plus importantes, on les reprendra dans un cours. D'avancer plus vite et de répondre à toutes les questions. Parce que je crois que des sessions comme celle-là, où l'on traite un grand sujet, on réveille des quantités de questions. Vous venez d'horizons très différents. Et donc les questions sont très diverses. Mais il faut que tout puisse sortir en toute liberté. Là, je ne suis pas d'accord. Non, c'est condamnable. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Alors, vous êtes obligé de réfléchir. Là, je suis d'accord, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus. Alors, vous demandez. Oui, autrement dit, une session implique une coopération. Ce n'est pas seulement vous donner des cours, mais c'est essayer ensemble d'être plus intelligent, éveiller votre intelligence, la réveiller et lui permettre de progresser. C'est ça. Donc il y a tout un aspect pratique. Et l'aspect pratique se fait dans les carrefours. Donc je crois que pour la plupart d'entre vous, les carrefours sont nécessaires. Mais ce n'est pas obligatoire. On vous laisse libre, complètement libre. D'y assister ou pas y assister, parce que ceux qui se trouvent au carrefour et qui n'ont pas envie d'y être, c'est un poids. Il faut qu'on fasse ces carrefours pour coopérer. Et alors, à ce moment-là, ça peut devenir très intéressant, parce qu'on essaie ensemble de comprendre ce qui a été dit, pourquoi ça a été dit, et comment cela doit nous aider. Donc je dis ça tout de suite. Vous y pensiez, parce qu'en mes carrefours, ceux qui sont habitués aux sessions ici savent ce que ça veut dire. Ceux qui ne sont pas habitués ne savent pas très bien ce que ça veut dire, un carrefour. On voit très bien les carrefours d'aujourd'hui, hein. Le carrefour systématique pour la route de ma ville. Alors on voit toutes les directions qu'on peut prendre. C'est pas ça. C'est pas toutes les directions qu'on peut prendre. On cherche ensemble la vérité. Alors, il y en a peut-être qui disent « Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Je comprends. C'est la grande question. Et Jésus n'a pas répondu à Pilate pour nous laisser le soin de répondre. Jésus est très poli. Quand il s'agit de la philosophie, il sait que les hommes doivent répondre. jure la vérité. C'est pas une question, vous voyez, facultative. Non, non. C'est dans l'évangile. J'ai toujours cherché, dans l'évangile de Saint Jean, à quel moment Jésus donnait une leçon de philosophie. C'est quand même intéressant. Est-ce que c'est Jésus qui s'est intéressé à la philosophie? Posez-vous la question. Jésus s'est intéressé à la philosophie. Parce qu'il a posé la grande question. Il a dit qu'il était venu rendre témoignage à la vérité. Donc à toute vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Et Pilate a posé, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous voyez, j'explique pour que vous compreniez. L'évangile de Jean, c'est Jésus face à toutes les situations humaines. C'est ça qui est prodigieux. Et c'est très propre à l'évangile de Saint Jean. Jésus face à toutes les situations humaines. Jésus face à ces hommes. Suis-moi. On est tous capables de suivre Jésus. C'est une situation très particulière qui est fondamentale dans le cœur de l'homme. Jésus est venu pour tous les hommes de bonne volonté. Et Jésus dit, suis-moi. Et Jésus se sert d'intermédiaire. Jésus rencontre intelligents qui ont fait de la philosophie et de la théologie, surtout de la théologie, Nicodème. La Samaritaine, pas tout à fait la même chose. Elle a eu 5 maris. Situation extrême de l'humanité, situation limite, réduite à la corvée d'eau en plein midi, pendant que son mari fait la sieste. Et la méridienne. Enfin, une situation limite. La pécheresse, tout le monde connaît. Elle en a eu 5, c'est le dernier. Et Jésus sait très bien qui elle est. Et Jésus l'attend. Nicodème vient déranger Jésus. Parce que Nicodème, c'est un pharisien très conscient de toutes ses qualités et de son intelligence. Il peut prendre des initiatives, aller voir ce jeune prophète dont on parle, cet homme qui remue un peu les gens. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un envoyé de Dieu? Est-ce que c'est pas un envoyé de Dieu? Ce qu'on se pose de temps en temps, on voit des situations tout à fait comme ça. On voit très bien la différence de Jésus avec la Samaritaine, et ainsi de suite. Jésus regarde toutes les situations humaines. Alors je me suis posé la question, est-ce que Jésus a parlé à un philosophe de son temps? À Jérusalem, il n'y avait pas une école de philosophie. Mais à Rome, du temps de Jésus, il y avait une école de philosophie. Il y en avait même plusieurs. Et la plus importante, c'était celle d'Épictète, stoïcien. Esclave devenu philosophe. C'est quand même intéressant ça. Hein? Esclave devenu philosophe. Et considéré comme un philosophe, et les sénateurs venaient lui parler, venaient lui demander conseil. Et de ce temps-là, tous les hommes politiques faisaient de la philosophie. Parce qu'il fallait qu'ils soient intelligents. Aujourd'hui, ils font de l'économie. Il n'y a plus beaucoup de philosophie. Mais du temps de notre Seigneur, il faisait de la philosophie. Et Pilate avait fait de la philosophie, sûrement. Il savait ce que c'était. Et Jésus s'adapte merveilleusement à chacun. cela par ton expérience. Et je ne peux pas exercer l'autorité en m'appuyant sur les médias. C'est très fort, vous savez, cette question de Jésus. Et au point de vue politique, c'est extrêmement intéressant. Et là, on voit bien Jésus, philosophe, sage, d'une sagesse humaine, et qui rectifie tout de suite Pilate. Et c'est une question. Pilate, vous attendez absolument pas à ça. Dis-tu cela de toi-même ou un autre l'a dit? Et Jésus continue. C'est une très belle leçon de philosophie pratique, politique, de Jésus à l'égard de Pilate. C'est vrai que Pilate s'est trouvé dans une situation extraordinaire. Pas un homme politique ne s'est trouvé dans une situation aussi grave que Pilate. Il n'était pas préparé du tout pour ça. Être en présence de l'envoyé de Dieu, fils de Dieu, et devant juger si on devait le condamner à mort ou pas. La situation la plus grave d'un homme politique. Prenez ces deux grandes affirmations. Jésus devant Pilate, Vatican. J'ai pas le droit, si je suis catholique, de dire Vatican, je m'en fiche. Pas du tout. Et Paul VI a été le pape qui a rappelé de la manière la plus forte l'exigence de la philosophie pour un chrétien. Et Paul VI, tout le monde a reconnu. Profondément d'intelligent. Et le pape actuel aussi montre l'exigence de la philosophie et que si la philosophie n'est pas juste, si elle dévie, le théologien dévie à cause de sa philosophie. Et qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est en face l'ouverture au monde, Vatican II. C'est-à-dire, un chrétien doit pouvoir dialoguer avec tout homme de bonne volonté qui cherche la vérité et de lui montrer quelle est la voie qui conduit à Jésus. Pas au point de vue apologétique, mais comme recherche de la la vérité, il doit s'intéresser à Jésus. Comme les anciens grecs qui cherchaient le point de vue de la vérité pratique s'intéressaient à Socrate. On doit s'intéresser à Jésus. J'ai pas le droit de dire, moi je m'intéresse pas à Jésus. Ah non, j'ai pas le droit. Il y a eu sur notre terre un homme qui s'appelle Jésus et qui nous a enseigné et qui nous a dit des choses assez étonnantes sur l'homme et qui nous a donné une voie d'accès à la vérité et qui nous a introduit dans un mystère d'amour. L'Église a toujours maintenu l'exigence de la philosophie, d'une philosophie qui cherche la vérité, pas n'importe quelle philosophie, mais d'une philosophie qui cherche la vérité, c'est-à-dire une philosophie qui reconnaît que la réalité est mesure du discours humain. Le discours humain ne provient pas en premier lieu de la subjectivité du philosophe et de son inspiration. Mais le discours philosophique provient en premier lieu de la réalité que je connais. Or, parmi toutes les réalités que je connais, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, avec le progrès des sciences, des techniques, la philosophie devient une nécessité pour sauver le caractère spirituel de l'homme, pour rappeler qu'il y a dans l'homme quelque chose que les sciences modernes physique, biologique, ne peuvent pas atteindre l'âme spirituelle. Vous connaissez bien ce petit dialogue que je trouve ravissant et merveilleux de Jean Bernard. C'est lui-même qui me l'a raconté. Donc, c'est tout à fait authentique. Jean Bernard de la bioéthique, puisque c'est le premier président de la bioéthique en France. Quelqu'un dont on ne peut pas nier l'intelligence scientifique, biologique, reçoit l'invitation de l'instituteur de son village natal, puisque la maison de ses parents existe encore et qu'il va passer le temps de vacances en pleine campagne. L'instituteur ose lui demander « Est-ce que vous ne pourriez pas faire des petits cours de biologie à mes petits-enfants ?» C'est très joli, ça. On comprend très bien cet instituteur. Il n'est pas bête de faire ça. Ça donne une illustration merveilleuse à son enseignement. Jean Bernard venant donner des cours à ses petits-enfants de 11 ans à 14 ans. Et Jean Bernard accepte, parce qu'il est très simple et très bon, accepte. Et il dit à ses enfants, tout ce que vous ne comprenez pas, écrivez-le sur un papier, puis vous pourrez m'envoyer vos questions. C'est très juste, et c'est très vrai. C'est ce que je vous dis aussi. Tout ce que vous ne comprenez pas, écrivez-le sur un papier, et puis on essaiera de répondre. Alors il m'a dit, j'ai reçu un petit papier avec une écriture extrêmement soignée d'une petite fille. Elle devait avoir 11 ans. Oui, l'écriture d'une petite fille bien soignée. Il a répondu dans un livre « Qu'est-ce que ce « qu'est-ce que l'âme ?» demande Brigitte. » Et c'est le titre d'un de ses livres. Je trouve ça ravissant. Et ça, c'est ça prouve qu'il cherche la vérité. Et Jean-Bernard, qui au début était assez positiviste, de plus en plus. La science biologique dit quelque chose. Mais il y a autre chose dans l'homme. Alors évidemment, dans ce livre, je ne dis pas qu'ils disent ce que c'est que l'âme, mais ils rappellent qu'il y a des spirituels. Et que les spirituels existent dans le monde. Et que ces gens-là rappellent qu'il y a une âme spirituelle. C'est intéressant de voir cela dans notre monde d'aujourd'hui. Dialogue de Jésus face à Pilate, dialogue de Jean Bernard en face de cette petite Brigitte. Qu'est-ce que c'est que là? Eh bien, c'est une question de philosophie. Qu'est-ce que c'est que là? Le savant biologiste, et Jean Bernard le reconnaît, ne peut rien dire sur l'âme humaine. Mais il peut dire qu'il y a là un secteur que la science biologique ne peut pas aborder et qu'on doit aborder autrement par la science. De grand-mère de famille. du ciel, préambule. Préambule, fidei. C'est-à-dire toutes les connaissances présupposées à la foi. Préambule, fidei. Que l'intelligence humaine pouvait par elle-même découvrir. Les fondements. Normalement, la foi est donnée à quelqu'un d'intelligent. C'est vrai, pour être un vrai croyant, il faut être quelqu'un d'intelligent. Il vaut mieux. Évidemment, on n'est pas obligé d'être intelligent pour être croyant. Heureusement, on ne fait pas passer d'examen avant pour savoir si les préambules à fidei. Vous les connaissez? Non. On vous a tous baptisés. Tous. Si vous avez été baptisé tout petit, c'était mieux. Parce que c'était impossible de passer d'examen. C'était votre parrain, votre marraine. Qui a pris ça? La charge, la responsabilité. Un jour, il sera intelligent, ce petit bonhomme. Ou cette petite bonne femme. Un jour, il sera intelligent. Et il demandera de lui-même le baptême. Je devance. C'est la hâte de Marie, je devance. C'est bon pour lui de recevoir le baptême. C'est bon pour lui de recevoir ce don de Dieu. Alors, on prend sur soi cette responsabilité. C'est très beau, ça. Mais c'est la responsabilité fondamentale. Mais une fois qu'il grandit, si on veut être conscient de son baptême, il faut comprendre que nous avons en nous une âme spirituelle capable de recevoir la grâce du Christ. Et que cette âme spirituelle, elle possède une intelligence. Elle possède une capacité d'aimer spirituellement. Pour découvrir ce que c'est que l'homme, il faut savoir toutes les qualités de l'homme. Et toutes ses capacités, et faire la distinction entre ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même et ce qui nous est donné dans la foi. Ce que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de découvrir, c'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère de la très sainte Trinité. C'est le mystère que nous sommes appelés un jour à voir Dieu face à face. Notre béatitude d'enfant de Dieu, c'est le mystère même de la grâce. Ça, le philosophe ne peut pas le saisir. Je ne peux pas. Mon intelligence philosophique s'arrête au domaine surnaturel. Et ma foi seule pénètre dans ce domaine. C'est quand même très important, ça. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un, on sait si on parle à un croyant ou si on parle à quelqu'un qui n'est pas croyant. Il n'y en a pas le même discours pour un croyant ou pour un non-croyant. C'est pas la même chose. Autrement, on tombe complètement d'à côté. Parler un discours de croyant, un positiviste qui dit qu'il est athée, ça ne sert pas à grand-chose. Et si vous réveillez son intelligence et vous montrez que cet homme est intelligent et doit l'être, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer un discours avec lui. Ça met du temps, c'est bien évident. Ça met du temps. Un jour, on est venu me chercher. On est vraiment venu me chercher. J'étais au Solchoir, chez les Dominicains. On est venu me chercher. Est-ce que vous accepteriez de dialoguer avec des Freudiens, des psychanalystes? J'ai dit, mais tout à fait. On est toujours prêts. Jésus aurait dialogué avec des psychanalystes. Il y en avait eu de son temps. Ça, c'est bien évident. Et les psychanalystes ont essayé de saisir dans le cœur de Jésus tous les refoulements de sa jeune enfance. Tu as eu un père extrêmement sommes-nous nés dans le 20e siècle? Est-ce que je crois que tous ici, on est nés dans le 20e siècle? Parce que il y avait une grand-mère de 95 ans. Je la verrai, tu vois. On est tous nés dans le 20e siècle. Pourquoi? Ce 20e siècle, si extraordinaire et si terrible, d'une certaine manière, côté. plus personne ne s'occupe de savoir ce pourquoi l'homme existe. Quelle est sa finalité? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Vous voyez l'importance de la question. Et ça, je crois que c'est très très important. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait des universités pour ceux une voie de garage. dit oui, oui. Organe témoin d'un âge révolu. J'ai dit oui, oui, oui. Alors il m'a dit, ouf, vous avez encore 10 ans de vie devant vous, mais dans 10 ans c'est fini. Pour nous, l'espérance, voilà ce que l'humanité est capable de faire. Elle est capable d'aller dans la Lune. Elle est capable d'être victorieuse de ce que représente le conditionnement du temps et des lieux. Et c'est vrai tout ça. Mais il y a encore des maladies. Et des maladies qui vont très très vite. Et l'homme est incapable. jouer sur un piano adapté à l'hippopotame. Dernière découverte. On fait ça pour les éléphants. Donc les hippopotames, ça peut aller aussi. C'est conventionnel, le langage. Tandis que le sourire ne l'est pas. Il est naturel. Or, un singe ne sourit pas. Et quand vous voyez des gros singes en Afrique qui vous regardent sur la route, surtout ne souriez pas et ne riez pas. Ils deviennent méchants. Parce qu'ils ont à ce moment-là une rivalité terrible. Parce qu'ils y trouvent des contemporains. C'est moins dangereux. Souriez, riez d'être méchant. C'est le sourire. Les anciens disaient que c'est le sourire, ils disaient pas que c'est la parole, c'est le sourire. Le propre de l'homme, c'est d'être capable de sourire. C'est très important de se rappeler ça. Vous voyez, c'est le geste. Le geste est plus propre de l'intelligence que la parole. Surtout le sourire. Nous devons